Live Radio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Et voilà, on est de retour dans les conditions du direct. Un blaireau menotté, des fennecs aux abois et Monsieur Baudet himself, élu ministre de la flicaille. Renard a décidément bien choisi son moment pour reprendre du service. Genève tourbillonne entre les dons d'organes et les renvois forcés. Et la faute au loup, il fait valser la jante plumée ou poilue dans un truculent polar animalier vibrant d'actualité. Voilà, 50 ans au compteur, romancier et syndicaliste. Ah ben c'est marqué, je dis ce qui est marqué. Voilà, voilà, 50 ans au compteur. Si l'invité boude, ça va le faire. Et syndicaliste, Yves Muni agace ou fascine, mais laisse rarement indifférent. La photo loup qui envoie, oh là là, la photo loup qui envoie malicieusement la faune médiévale gratter nos plaies d'aujourd'hui, fait découvrir une nouvelle facette de ses nombreux talents. Bienvenue Yves Muni.
Bonjour.
On est ravis de te recevoir.
Mais je suis ravi d'être là.
Eh ben voilà. Alors on te reçoit effectivement principalement, avant tout pour la casquette d'écrivain, d'auteur. Donc pour ce livre, La photo loup qui vient de paraître,
ouais,
et qui est paru aux éditions Cousumouche, que l'on salue également. Mais tu es également, comme on l'a dit tout à l'heure, syndicaliste, par ailleurs encore actif hein, comme syndicaliste.
Oui.
Alors la première question, c'est peut-on vivre du métier d'écrivain ?
Alors la seule partie de ma vie où j'ai vécu un petit peu de l'écriture, c'est quand je travaillais pour des scénarios, pour la télévision et le cinéma. Là j'ai eu un petit moment où j'ai réussi à survivre de ça, mais c'était extrêmement éphémère, sinon non, c'est pas quelque chose qui m'a fait vivre, et en tout cas pas la littérature.
D'accord. Et alors le syndicalisme et la littérature, selon toi, est-ce que ça fait bon ménage ? Est-ce que l'un nourrit l'autre ? Alors, ou est-ce que c'est plutôt antagoniste ?
Mais la question de la littérature, c'est que quand elle s'enferme un peu dans sa tour d'ivoire et qu'on essaie d'écrire ex nihilo, force est de constater qu'on s'épuise, enfin en tout cas moi, je m'épuise assez vite et finalement, ce dont on a besoin de parler, eh bien, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui nourrit la réflexion et qui donne des ailes à l'imagination. Et à vrai dire, le fait d'alterner l'un avec l'autre me va très bien. La difficulté, c'est d'avoir le temps pour l'écriture, c'est un temps qui devrait normalement être en immersion, et ça ne fonctionne pas très bien avec l'activité syndicale. C'est la raison pour laquelle en fait ce roman La photo loup, lui, fonctionne bien parce qu'il s'inscrit dans une dynamique de série par rapport à un univers qui existe déjà, qui est celui du roman de Renard, et dans lequel j'avais qu'à me glisser. C'était assez simple et je peux le reprendre un peu comme des vieilles pantoufles chaque fois que j'ai 5 minutes dans mon emploi du temps qui me permettent d'écrire. Donc c'est beaucoup plus confortable qu'un roman introspectif où je devrais m'immerger pendant 6 mois. Ça, j'ai pas la possibilité de le faire avec mon activité syndicale.
Oui. Alors tu l'as dit, la base, le principe, l'idée de départ, c'est le roman de Renard qui est un conte poétique finalement, animalier également, qui est né il y a de cela plusieurs siècles.
Alors c'est pas du tout un conte poétique.
Pardon.
Non, le roman de Renard, c'est clairement une littérature qui essaye de pasticher la littérature officielle. Vous aviez à l'époque la littérature courtoise, les romans de la table ronde, les romans de chevalerie qui étaient la littérature officielle. Et puis il y avait un pastiche animalier où on reprenait, en fait, le roi Arthur, c'était le lion, le roi noble. Et puis toute sa cour de chevaliers, et bien, c'était le loup Isengrin, c'était le renard. Et tous ces animaux pastichaient en fait la littérature officielle, et il critiquait finalement la société de ce temps-là, il critiquait le pouvoir, il critiquait les mœurs. Et on a aujourd'hui une image très infantile du roman de Renard parce qu'on en a fait plein d'illustrations pour enfants, on a fait des très belles choses à partir de là, mais en fait c'était quelque chose de très cru, de très violent. Il y a des histoires entières où Renard est en train de violer la louve Hersant. Enfin, il y a des choses très très dures. C'est dans un temps de guerre, un temps de famine. Renard passe son temps à chercher la nourriture parce qu'il sont tout le temps en train d'être affamés dans cette époque. Et c'est justement la lutte du petit peuple contre le grand. Donc c'est très revendicatif. C'est un peu, je l'ai dit dans un article, c'est un peu les guignols de l'info de cette époque-là où on pastichait la société. Donc il n'y a absolument pas le côté ni conte ni bon enfant qu'on voudrait y donner aujourd'hui.
Non, tout à fait. Alors moi, je parlais plutôt de la forme qui est une forme poétique dans le sens où c'était souvent des octosyllabes et c'était souvent une forme de poésie. Le contenu, effectivement, alors on peut... vers quoi on peut s'approcher lorsque l'on parle du roman de renard? Est-ce que ce serait, pourrait-on faire l'analogie avec des Dazi Bao de l'époque, ces journaux qui apparaissaient sur les murs et qui étaient le fait justement du petit peuple? Est-ce qu'on peut s'approcher également de George Orwell, de La ferme des animaux? Et à cela, pourrait-on raconter qu'il y a là derrière une dimension orale, puisqu'à l'époque, le roman de renard était raconté plus qu'il n'était lu?
Tout à fait. Alors, le côté oral, ça c'est indubitable. Maintenant, il y a effectivement la partie écrite qui est venue se greffer dessus. Il y a eu la partie officielle du roman de renard, celle qui nous a finalement été retranscrite. Et cette partie-là a été faite par des lettrés, il ne faut pas se leurrer. Ouais. C'était pas que le petit peuple, mais il y avait derrière, encore une fois, tout l'esprit qui guidait cette littérature-là et qui reste éminemment subversif. Donc,
Alors voilà, d'où est venue cette idée justement de passer par ce biais-là
Parce qu'il est beaucoup plus aisé de raconter les choses d'aujourd'hui sans pleurnicher sur elles et justement par ces personnages-là que quand on a envie de critiquer l'une ou l'autre des figures politiques du moment, bah typiquement, plutôt que de me prendre au conseiller d'État, par exemple, Monsieur Maudet, ben si je parle de Monsieur Baudet et que je l'affuble d'une paire d'oreilles d'âne et que là-dessus on peut effectivement avoir une certaine distance, ça met de l'humour, ça met du pastiche, ça permet tout de suite un langage plus fleuri, ça permet tout de suite quelque chose aussi de plus rigolard parce qu'on n'est pas en train de pleurer sur notre sort, on est en train au contraire de piquer là où ça fait mal et ça fait du bien de piquer.
D'accord. C'est ton quatrième roman, semble-t-il, hein, c'est ça. Combien de temps, est-ce que ça a été le plus compliqué à écrire ou pas? Est-ce que ça a été plutôt le plus simple? Comment est-ce que ça se passe dans le processus de création? Combien de temps on y met?
Alors j'en sais fichtrement rien.
D'accord. T'as non, pas compté.
Chaque texte est un peu différent. À vrai dire, le premier livre que j'ai publié, qui était aux éditions Viviane Ami en 94, qui s'appelle Le Serviteur, c'est une espèce d'épopée tonitruante au XVIIe siècle avec des personnages hauts en couleur. Il y avait déjà cette volonté qui a été un peu celle de tous mes bouquins, à la fois de s'approprier de la littérature, mais d'essayer de faire en sorte qu'elle soit lisible par le plus large public possible. Mmh. À vrai dire, je me suis toujours planté parce que j'ai toujours été lu par très peu de personnes. Donc, c'est pas que j'ai réussi à être un auteur très populaire, loin s'en faut. Donc le premier a eu un certain succès d'estime au niveau de... Bah, d'abord, il a été publié chez un éditeur à Paris, Viviane Ami, et puis il a été pris pour un ou deux prix littéraires qu'il n'a pas gagné, mais enfin, il a quand même été en lice. Et voilà, ça c'était en 94, donc ça ne nous rajeunit pas. Le deuxième était beaucoup plus intime. C'était un texte, en fait, sur ma grand-mère, qui s'appelle Mater douloureuse, alors beaucoup plus introspectif, un récit relativement court, qui, lui, a eu l'honneur du prix de l'ADELF, donc l'Association des écrivains de langue française, qui est un prix que personne ne connaît, mais on s'en fiche. Il est donné dans un ministère à Paris, et tout, ça fait très, très prout-prout. Et puis, donc, il a eu, du coup, une réédition, et c'est celui que j'ai le plus vendu, finalement, même si c'était relativement intimiste et autobiographique. Et le troisième, alors, était une espèce de polar un peu fantastique autour d'un personnage cyclopéen et dont on ne sait pas très bien, en fait, si c'est naturel ou bien si c'est une expérience scientifique qui l'a rendu cyclope. Ça s'appelle Nazarov ou le vrai fils de l'homme. Et c'est sur cette ambiguïté de savoir si c'est un cyclope naturel ou une expérience scientifique que le polar tient sur la durée, avec tout le rapport finalement à la monstruosité et à la difficulté qu'on a de la reconnaître.
D'accord.
Donc tout ça, c'était le troisième. Chacun d'entre eux, ayant exploré des voies littéraires un peu différentes, il se trouve que chaque fois que j'avais trouvé un éditeur pour un livre, eh bien, il ne me reconnaissait pas dans le suivant. Donc il avait été content d'en publier un, mais il ne publiait pas le suivant. Donc j'ai valsé d'un éditeur à l'autre. Du coup, c'est de nouveau chez un nouvel éditeur que je publie le quatrième, donc chez Cousu Mouche, que je remercie beaucoup d'avoir eu le courage de publier ce livre. Et en fait, je leur ai annoncé d'emblée, je leur ai dit, moi, en l'occurrence, j'ai peu de temps pour l'écriture et du coup j'ai envie de faire une forme de série, quelque chose du genre dans lequel je m'installe et qui puisse justement servir ce que j'ai envie de dire aussi un peu syndicalement, aussi un peu socialement. Et puis il y a un volet à vrai dire très intime aussi dans ce livre, puisqu'on ne parle pas que des grands mouvements de l'histoire, il y a la vie privée de Renard qui est en fait un paumé aujourd'hui, qui est quasiment SDF, qui a une vie de famille complètement ratée et puis qui est en train de demander l'assistance publique et qui finalement est malgré tout une figure dans le monde animalier qui lui attire un certain nombre de sympathies. On vient le rechercher pour mener un certain nombre de combats. Donc, du coup, ça nous permet d'imaginer plusieurs histoires. Il y a plein de choses à dire. Le premier, qui est la faute au loup, parle de la question de la politique migratoire en Suisse, des renvois forcés, des gens sans papier, des questions de permis de séjour, d'accès au travail, etc. Donc, avec un petit volet syndical au coin du bois. Le deuxième, qui est déjà bien avancé, lui, c'est sur la politique sécuritaire. Donc, il y a un aspect plus politiquement encore engagé. mélanger, mais et puis surtout c'est moins en toile de fond. Dans le premier, c'est on présente les personnages, donc on s'attarde pas trop sur les thèmes. Il faut déjà s'imbiber de l'univers. Le deuxième, ben voilà, on les connaît, donc on se permet d'aller un peu plus vite en besogne et d'aller un peu plus profond dans les thèmes.
D'accord. Alors justement, j'allais revenir sur ce choix de l'éditeur. Est-ce que c'est toi qui les as sollicités à Cousimouche ou est-ce eux qui ont remarqué des bribes de texte et se sont approchés de toi ?
Alors non, j'ai toujours une difficulté énorme à me faire publier. Je dois envoyer à des ribambelles d'éditeurs avant d'avoir un qui verse la larme à l'œil et qui finit par me prendre par dépit. Donc non, ça n'a pas du tout été l'éditeur qui est venu me chercher. D'accord. Maintenant, il se trouve qu'a priori, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être trop déçu. Donc j'espère que ça va tenir sur la durée et qu'il va publier les prochains.
Tu les connaissais un petit peu avant parce que ce sont par ailleurs des auteurs eux-mêmes et qui sont des auteurs eux aussi alors, truculents, pourrait-on dire.
Quand j'ai envoyé le texte, à vrai dire, je ne les connaissais pas. Je n'avais pas fait le lien. Enfin, en vrai, je les connaissais, mais je n'avais pas fait le lien parce qu'en fait, ce que je connaissais, c'est le duo d'Extrême Suisse.
Absolument.
Mais je n'avais pas du tout fait le lien avec les éditions Cousumouche. Ce sont les mêmes personnes, oui. Mais je n'ai fait le lien qu'à posteriori. Donc, j'étais ravi de me retrouver chez eux avec un côté justement aussi très gouailleux et très revendicatif de leur côté à eux. Donc, ça me plaisait bien.
Ah ben, j'imagine. Alors, la photo, on l'a compris. Hein, il y a toutes ces analogies qui sont faites. Je vais après t'interroger quand même sur les caractéristiques du loup, à tout le moins, mais il y a ensuite, comme tu l'as dit, une ribambelle de personnages dont on pourrait reconnaître certains de nos contemporains. Mais alors, finalement, ce texte avance d'une certaine manière cachée, en tout cas plutôt de manière humoristique, mais toi-même, tu t'annonces en tant que, voilà, Yves Muni, tu avances front ouvert, les yeux en l'air, les yeux ouverts comme ça. Est-ce que tu n'as pas, à un moment donné, souhaité prendre un pseudo, par exemple ?
Le livre, c'est Renard, c'est pas moi, donc effectivement il y a un interface. Maintenant, non, j'ai pas honte de ce que j'écris, j'ai pas peur d'en assumer les conséquences syndicalement. D'ailleurs, il y a une syndicaliste juste à côté d'ici, elle le sait. on est régulièrement sous le coup de plaintes pénales et autres joyeusetés policières. Ça m'a pas empêché de continuer à faire du syndicalisme jusqu'à présent. À ce jour, malgré les dizaines de plaintes reçues, j'ai encore jamais été condamné. J'espère que ça va durer. Et puis voilà, non, j'assume ce que je fais et on verra bien ce que ça donne, mais je le fais.
D'accord. Mais en termes de confort, tu vois, on aurait pu imaginer que tu ne souhaites pas justement être assimilé en plus déjà des activités précédentes. Voilà, pour toi, c'est quelque chose de clair et d'assumer, comme tu le dis, et vogue la galère.
Tout à fait.
Très bien. Alors dis-moi, qui pourrait-on y reconnaître ? On a entendu parler d'un certain Baudet dans ce récit-là. Qui pourrait-on y reconnaître parmi nos contemporains ?
Oui, mais le problème, c'est que si je le dis, ça ôte de l'intérêt de la découverte. Parce que
il y a
quelques figures politiques. Alors, c'est les plus simples à identifier. Donc, il y a Baudet, il y a Lanchois pour Longchamp. Donc ça, c'est les figures politiques. Maintenant, il y a syndicalement, j'aborde quand même une structure syndicale et je l'appelle Omnia, donc reconnaîtra, okay. Ils s'y reconnaîtront s'ils veulent.
Ouais.
Et puis, pour le reste, il y a effectivement quelques figures locales, certaines que vous reconnaîtrez peut-être, dont une célèbre vendeuse de cake sur les bains des Paquis et ailleurs. Voilà, il y a quelques personnalités de la faune genevoise qu'on peut identifier au travers des pages. Et puis après, il y a des clins d'œil on va dire privés, donc ceux-ci, je ne sais pas qui s'y reconnaîtra ou pas. Et puis, en plus de ça, il y a tous les clins d'œil au roman lui-même, puisqu'à vrai dire, plein d'épisodes connus ou qui ont traversé les siècles, qui nous restent en mémoire, sont parfois repris. Je donne un tout petit exemple parmi tant d'autres. Il y a le fameux épisode où Renard voit en fait une charrette passer avec des poissons. Il est affamé, comme toujours, et donc il se couche sur la route en faisant semblant d'être mort, et donc les poissonniers s'arrêtent pensant qu'ils vont pouvoir récupérer une peau de renard qu'ils vont pouvoir vendre au marché. Ils le prennent, ils le balancent dans la carriole. Et évidemment que dès qu'ils ont le dos tourné, qu'ils reprennent la route, Renard commence à manger les poissons dans les tonneaux, et après il s'enroule avec des anguilles, il saute du chariot et il se fout de la tronche des poissonniers. Ça, c'est l'épisode du roman de Renard. Alors évidemment, aujourd'hui les temps ont changé, hein, c'est comme une parenthèse. Renard a passé quelques siècles dans son terrier, il ressurgit et revient dans la vie active. Et puis là, lorsqu'il y a un épisode de même nature où il veut essayer de rentrer dans un véhicule, il se couche sur la route, mais on a plus des charrettes qui roulent au pas, et du coup il se fait renverser par la voiture, et évidemment il se fait ramener à l'hôpital. Donc il y a toujours des clins d'œil avec les épisodes passés, mais évidemment c'est que ceux qui ont en mémoire les épisodes du roman de Renard qui pourront les voir ou pas. Ça n'empêche pas la compréhension du texte, je l'espère en tout cas, mais disons que ça peut amuser celui qui se rappelle les épisodes.
Absolument. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, le roman de Renard est également quelque chose qui a trait à l'oralité. Est-ce que tu voudrais en faire un petit peu la même chose de ton roman ? Est-ce que des lectures sont d'ores et déjà prévues ? Est-ce que tu souhaites aller là-dedans et en faire, voilà, des sortes de théâtralisations ?
Alors, à vrai dire, il y a déjà eu pas mal de lectures. Ça a commencé à Fahrenheit, où on a en fait fait l'inauguration du livre. Donc, la première lecture a eu lieu là-bas. Il y en a eu depuis qui ont été faites à Payot. Il y en a qui ont été faites au Recyclab pour Genève, à l'Espace Noir à Saint-Imier, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel. Il y en a d'autres qui sont prévus cet automne à Lausanne, de nouveau à Neuchâtel, à Fribourg, un peu partout. Donc voilà, on essaye effectivement d'aller faire des lectures. J'aime bien, parce qu'à vrai dire, il y a beaucoup de dialogues, c'est énormément dialogué. D'ailleurs, une des difficultés pour le lecteur, c'est du coup, quand il y a des switches d'un personnage à l'autre, c'est de suivre le fil d'un dialogue. Oui. Donc pour ceux-là, il y a deux outils dans le livre. D'abord, à la fin du livre, il y a ce qu'on a appelé l'alphabet qui reprend les différents personnages qui sont, alors pour une bonne part, ceux du roman de Renard, mais pas que. Il y a plein de nouveaux animaux qui apparaissent dans la faune. Donc il y a les anciens et les nouveaux. Ils sont indiqués d'ailleurs italique ou pas italique, si c'est ancienne ou nouvelle génération. Donc on peut se référer à la fin du livre. Et puis il y a une scène particulière qui se passe dans une famille de loups, et où il y a tellement de loups qui interviennent que tous ceux qui lisaient la scène finissaient par ne plus savoir quel loup parlait. Donc on l'a rendu complètement théâtral. C'est devenu un extrait de théâtre avec les noms des personnages qui apparaissent. Et la théâtralité étant revendiquée en introduction et à la fin de la scène, du coup, elle prend une forme littéraire théâtrale. Mais le reste du temps, à vrai dire, les dialogues sont toujours assez vigousses, ce qui fait que, du coup, ils se prêtent bien à l'oralité, eux aussi, et que j'en fais volontiers lecture lorsque des libraires ou des espaces publics me l'autorisent.
Voilà, eh bien, l'appel est lancé. Tu cherches encore, pourquoi pas, des lieux insolites, des lieux singuliers pour y faire des lectures. Je pensais également à des adaptations, pourquoi pas, tu l'as à peine ébauché, mais une pièce de théâtre pourrait surgir de ce roman, qui sait ?
Alors oui, là, j'en sais rien. Ce qui est en tout cas prévu déjà aujourd'hui, c'est qu'il y a une dessinatrice qui s'est intéressée au livre, qui s'appelle Maou et qui fait des choses magnifiques. D'ailleurs, elle illustre déjà une chronique que Renard tient dans Gauche Hebdo. Il a commencé une chronique en lien avec l'actualité. Donc il y a déjà eu deux articles de chronique qui sont parus en juin. Comme Gauche Hebdo arrête durant l'été, ça reprendra en septembre. Et donc elle illustre ces articles et du coup, elle a eu envie d'essayer de faire une adaptation du livre en BD. Alors on va voir ce que ça donne. On est en train de s'y employer. L'éditeur attend aussi pour se prononcer. Donc, on va faire nos exercices cet été. Elle va essayer de mettre ça en image et je m'en réjouis parce qu'elle fait vraiment des très beaux dessins.
C'est-à-dire que nous allons retrouver à la rentrée certainement Renard, Goupil se faufiler ici et là au travers de certains médias genevois.
Alors, en tout cas, en ce qui concerne la chronique, elle va continuer dans Gauche Hebdo, ça c'est sûr. Mmh. C'est Renard qui tient sa chronique sur l'actualité en rebondissant. Le premier s'appelait Baudet Premier et c'était justement en lien avec l'épisode à Abu Dhabi que tout le monde a bien connu. Le deuxième, c'était les mesures d'encoucougnement et c'était en lien avec les mesures d'accompagnement aux accords bilatéraux, donc tout ce qui est l'extension des conventions collectives de travail. Donc on retombe sur les questions syndicales. Là, c'est les deux premières. Je ne peux pas encore vous dire sur quoi sera la troisième, mais elle paraîtra dès septembre.
Très bien. La photo loup, on y revient, donc paru au Cousumouche. Alors, qui est-il ce personnage du loup ?
À vrai dire, le titre porte le loup au pinacle, mais le personnage, comme vous l'avez bien compris, principal qu'on suit, c'est le goupil, c'est Renard. Donc il y a toujours dans le roman de Renard une grande confrontation entre le renard et le loup isengrin. Là, en l'occurrence, chacun, puisqu'on a passé quelques générations depuis le Moyen-Âge, donc chacun a des enfants et en pléthore et des petits-enfants, ce qui fait que de quel loup parle-t-on quand on dit la faute au loup ? Évidemment, tout le monde imagine qu'il s'agit d'isengrin, vous le saurez en lisant le livre, mais il y a effectivement un loup qui a commis une faute relativement grave et qui sous-tend tout le texte de cette histoire. Du coup, ça donne un peu une tonalité au titre de la série, puisque chaque fois, il y a un animal identifié dans le titre avec un mot qui lui est rattaché. Donc, j'imagine que les prochains vont être dans la même veine. Alors, ce premier, la faute au loup, va nous mettre dans la rivalité avec Isengrin, qui du coup et sa famille, qui du coup tient une place importante dans ce roman. Isengrin est devenu chauffeur de bus. Donc lui, il bosse au TPG, ce qui va permettre d'avoir quelques rencontres inopinées dans les transports en commun avec le goupil. Voilà.
Très bien, très bien. Et alors justement, le goupil, quelles en sont les aspirations de ce personnage et quelle en est la situation de départ ? On sait qu'au départ, il a une carrière un petit peu brisée, il a une situation de départ pour le moins complexe.
Alors, le début du roman, à vrai dire, c'est comme si, encore une fois, Renard remettait le nez hors de son terrier après la parenthèse des siècles où il n'y a pas eu de texte sur lui. Donc, il sort du terrier, il habite le quartier des Grottes à Genève. Donc, il sort de son terrier aux Grottes et à peine il sort avec moult prudence parce qu'il a il appréhende un peu le monde extérieur, un monde qui est devenu plein de... Alors là, il sort, il y a les avions, les low cost, il y a plein de bruit autour de lui. Et dans le quartier des Grottes, à peine il est sorti, que devant lui se fait arrêter, il y a une descente de flics, en l'occurrence des perdreaux dans le livre. Donc les perdreaux viennent arrêter un animal et il reconnaît dans cet animal, quand il est en train de se relever, le dos rayé de son cousin Grimbert. Grimbert, c'est le blaireau du roman de Renard. Si vous en souvenez, dans le roman de Renard, Grimbert, c'est celui qui sauve un peu toujours la mise à Renard. Parce que chaque fois que Renard se fait traîner devant le tribunal, devant le roi, devant le noble, ben c'est Grimbert qui essaie d'arranger les bidons entre Isengrin et Renard en disant non, mais c'est pas si grave ce qu'il a fait, attendez, un peu de clémence, majesté, etc. Donc c'est un peu l'allié de toujours de Renard. Et là, il se fait arrêter. Parce qu'en fait, Grimbert est devenu justement syndicaliste à Omnia et c'est lui qui a essayé de protéger une famille de Fenech sans papier qui essayait de travailler dans un des hôtels de la place, on ne vous dira pas lequel. Donc partant de là, eh bien ce blaireau se fait arrêter et partant de là, Renard va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi son cousin se fait arrêter, qui est-ce qu'il essayait de protéger, où sont ces Fenech qui ont disparu dans la nature et dont plus personne ne sait ce dont il est advenu. Et il va partir à l'aventure pour essayer de retrouver la famille Blaireau et la famille des Fenech. Et ces pérégrinations vont le mener dans plusieurs lieux, notamment dans son fameux terrier historique, puisqu'il habitait Maupertuis, hein, le fameux terrier de Renard. Et il va y retourner, bien qu'il l'ait abandonné depuis moult siècles, et en espérant qu'il va pouvoir y retrouver Grimbert et sa famille, voire les Fenech. Et pas du tout, il va évidemment y retrouver toute autre chose, mais ça, vous le saurez en lisant le livre.
En lisant le livre, absolument. Alors, on voit bien, il y a différents niveaux de lecture, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le lire, voilà, en adoptant cet angle-là, en adoptant un autre angle, en étant extrêmement à l'affût des clins d'œil que tu mentionnais. Où peut-on trouver ce livre? Alors, les questions un petit peu triviales, hein, maintenant. Où peut-on trouver ce livre? Dans quelle librairie est-il disponible?
Officiellement, dans toutes, mais je ne suis pas sûr qu'elle l'ait tout en stock. En tout cas, paradoxalement, c'est bien d'ailleurs ce qui est un peu embêtant, les grandes l'ont toutes. Et puis, dans les petites, bon, alors à Fahrenheit, ça, je vous le recommande chaleureusement, c'est une librairie locale fort sympathique qu'il a, mais il y a des petites librairies locales qui ne l'ont pas. Ils l'avaient au boulevard aussi, mais je crois qu'ils avaient peu d'exemplaires et si je ne dis pas de bêtises, ils ne l'ont plus. Ils l'ont à Payot, ils l'ont à la Fnac et voilà. Donc, et après, vous pouvez le commander n'importe où, mais donc je vous recommande chaleureusement Fahrenheit.
Alors nous aussi, alors je te livre la prochaine question et ensuite je rappellerai pour Fahrenheit. Voudrais-tu nous en lire quelques extraits peut-être aujourd'hui?
Alors peut-être après une petite interruption musicale.
Ah, absolument. Et avant cela, parce que je ne sais pas si tu as déjà pensé à quels extraits, mais voilà, on peut rappeler que Fahrenheit 451, c'est une librairie qui se trouve au 24 rue Voltaire, avec laquelle nous faisons beaucoup, beaucoup de choses, et que Pierre Wirst, le libraire, c'est certainement lui qui t'y a invité.
Oui.
Voilà, eh bien, on le salue au passage, et que donc cette librairie est ouverte du mardi au samedi. Bon.
Ceci dit, ils sont en fermeture vacances,
voilà,
malheureusement.
Il y a une fermeture, il y a une fermeture estivale, mais quoi qu'il en soit, c'est au 24 rue Voltaire et c'est Fahrenheit.ch, le Fahrenheit451.ch, l'adresse internet. Alors, faisons donc une pause musicale. Peut-être avant cela, j'aimerais encore dire que le livre donc, est paru donc, en mai 2018, que ça s'appelle La faute au loup, qu'il est paru aux éditions Cousu-Mouche et que l'auteur Yves Magnien est avec nous.
Muni.
Qu'ai-je dit?
Magnien.
Oh, pardon. Oh, je suis désolé.
C'est pas grave.
Je suis désolé. Yves Muni est parmi nous. Et que donc, on va faire une petite pause musicale. Et puis, juste derrière, voilà, peut-être quelques extraits qui nous seraient livrés par l'auteur. C'est parti. Et on revient juste derrière ça. Oh, je suis désolé.
Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes. And the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Libre Radio, la radio qui n'en finit pas. www.libradio.org.
Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin.
Oui, mais ici la fin c'est la meilleure chose.
Voilà, ça ce sont nos petits jingles qu'on aime bien à, nous, à Libre Radio. Alors, La Photo Loup, donc Yves Munier. Ce livre est paru donc en mai 2018, tout soudain, aux éditions Cousumouche. En voici quelques extraits choisis par ta voix.
Alors, quelques extraits. Je proposais d'en faire un déjà pour commencer.
J'essaie de te motiver un peu, tiens.
Si vous redemandez après, on verra.
Ça marche.
Donc, en l'occurrence, je parlais tout à l'heure d'un personnage truculent de la faune genevoise qui vend des cakes. Et c'est ce personnage que nous allons retrouver, en l'occurrence, devant les bains des Paquis. Donc, très
tout
local.
Proche. Voilà, exactement.
Voilà, juste à côté d'ici. Donc, c'est l'extrait choisi qui est un extrait à peu près du milieu du livre, au chapitre 7 qui s'appelle Le Trône. J'y vais.
Ok.
Dans la file d'attente pour les bains, Renard aperçoit Galopin, le lapin, en grande discussion avec Tibère, le chat de la clique à Noble, Noble étant le lion. Le goupil essaye de tendre l'oreille, mais ils sont trop loin. « Tu m'achèterais pas une tranche de cake ?» Ça, c'est Norma, la loutre. Elle passe sa vie à squatter les manifs pour vendre ses pâtisseries aux chichons. « Non, merci, non. Oh, tu sais, Renard, toi qui es dans la politique, je suis pas dans la... Oui, bon, enfin, on se comprend. Ce serait le moment que ceux qui se disent de gauche, ils fassent enfin quelque chose. Ils m'ont coupé mes allocs. Tout ça parce que je me faisais trop de fric avec mes cakes. Tu te rends compte? En fait, dans ce pays, dès que tu essaies de te défianter par toi-même, on te coupe les vivres. C'est ça le système qui crée les assistés. Tu vois la combine? Bon, écoute, Norma. Ouais, bon, ici, on me laisse vendre parce que je suis inhabitué, mais les cakes, c'est plus pareil qu'avant. Avant, j'arrivais parfois à me faire mes 120 balles par jour. Avec ce que je paye pour les ingrédients, je m'en sortais pas trop mal. Alors qu'aujourd'hui, quand ça tourne bien, je me fais quoi? 70, 80 balles, puis les ingrédients, ils sont plus chers. Bon, remarque, c'est toujours les mêmes qui m'en prennent. Hein. Rarement des socialistes. Avec eux, j'ai pas la cote. Faut dire que j'ai remis ma carte des syndicats depuis que j'ai compris qu'il n'y a qu'au front vigilant qu'on s'occupe vraiment de nous. Écoute, Norman, c'est gentil, mais là, je dois y aller, je dois payer. À bientôt. Tu m'en prends pas, alors? Ben non, vraiment. Et si vous voulez entrer, c'est 2 francs. Sinon, laissez passer les autres. Oui, pardon. Bon, voilà. Norman, à bientôt. Hein. Votre ticket, merci. Renard essaye de retrouver Tibère et Galopin. Mais le parterre de polage recouvre la totalité des 2 plages de gravier, les abords en plancher, les pierres de la jetée et encore un bout du chemin de béton, ce qui oblige Renard à faire des pas d'échassier pour éviter les corps. Impossible de repérer quoi que ce soit dans ce charnier de fin d'été. De jeunes oies se dandinent vers le bar en gloussant, des marcassins tapissent d'algues le toboggan. Ça et là, des bouquins sont posés à côté de cigognes faméliques ou de grenouilles affables. Des canards se baignent à l'écart à cause des puces qu'on leur suppose. Des lévriers écarlates viennent bomber le torse en boitillant sur les galets. Un couple d'otaries se badigeonne d'écran total. De vieux crabes jouent aux échecs. Et à côté d'un lézard qui lui vole tout son soleil, même la fourmi Fromont a étendu sa serviette. Toute cette joyeuse ménagerie fait un tel boucan qu'on n'entend plus ni le clapotis du lac, ni les klaxons du quai. Renard, lui, se dirige droit sur les baby-foot et y pose une pièce pour indiquer qu'il prend le gagnant. Sur le terrain, 2 jeunes écureuils essayent de mener leur bleu à l'assaut des buttes rouges. Hélas pour eux, l'équipe de Belgrade est aux pattes de l'indécrottable Martial. Cet ours passait déjà la moitié de son école à buissonner dans les cafés pour devenir ce qu'il est toujours 40 ans plus tard, l'as du baby. Et accessoirement aussi, mais ça va souvent de pair, un indique de première.
Voilà. Donc, bravo, merci beaucoup. Est-ce que ça nous permet de régler quelques comptes lorsque l'on écrit ce type de livre?
Alors j'espère que je ne suis pas trop vindicatif. Bon, je plante quelques banderies, ça
est quand même. Hein, ouais,
j'espère
ouais.
que ça n'est pas trop méchant pour ceux qui les reçoivent. Elles sont souvent avec plein de sympathie pour les gens que j'aime bien, évidemment avec un peu plus de fiel pour les autres.
Tu parles de vigilance, est-ce qu'on parle bien de vigilance
Le front vigilant. Ouais. Alors, typiquement, on est dans un univers décalé, donc j'essaie de reprendre le moins possible les noms réels.
Oui,
d'accord. Et donc du coup, il y a toujours un décalage. Évidemment, le front vigilant, c'est en clair l'extrême droite locale et un parti bien connu des Genevois.
Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'effectivement, c'est du coup un bouquin qui s'adresse certainement aux Genevois, aux Genevoises et aux Genevois, mais pour qu'il puisse s'adresser également à des personnes un petit peu plus loin, y a-t-il une sorte de glossaire à la fin du livre où on pourrait se référer?
Alors, sur les personnages, oui, mais à vrai dire, l'intrigue, elle est avant tout policière. Hein. On est dans un cadre où j'espère que quelqu'un qui le lirait à Marseille n'aurait aucune difficulté à suivre l'intrigue et à la comprendre au bout du compte. Donc, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture. Les clins d'œil sont là pour ceux qui peuvent les reconnaître. Les autres ne devraient pas perdre le fil pour autant.
D'accord. Donc, on a bien compris que le roman de Renard était extrêmement présent. Mais comme j'ai dit au tout départ, toi, quand tu as rédigé tout ça ou dans ton processus de création, est-ce que tu as fait un passage par La ferme des animaux par George Orwell? Parce que voilà, il y a un récit politique là-dedans extrêmement auquel on pourrait faire une analyse, on pourrait penser.
Alors, écoute, je suis ravi que tu en parles parce que j'adore ce texte, mais j'avais pour ma part pas du tout fait l'analogie. J'ai effectivement creusé autour de la faune de Renard et du roman lui-même. J'ai pas du tout fait de recherche autour d'Orwell et de La ferme des animaux, mais c'est un texte que j'adore, donc ça me fait très plaisir que tu en parles.
En tout cas, moi, ça me fait penser à ça quand tu le lis aussi, bien entendu pas que. Et puis alors, voilà, pourquoi ça m'a fait penser à ça, je ne sais pas, mais je te livre en tout cas ma réflexion. Ça m'a fait penser à Hommage à la Catalogne, un autre livre d'Orwell. Et également aussi parce que je me suis dit, tiens, dans Hommage à Catalogne, il y a un ou deux chapitres qui sont justement mis en exergue en disant, voilà, si on veut aller plus loin dans la recherche spécifique historique au sujet, eh bien, on peut y aller, mais ça ne va pas, comment dire, entraver la fluidité du récit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait apparaître dans ce type de livre?
Alors, possiblement sur la suite, parce que comme je te l'ai dit, le premier, en fait, pose un peu le cadre.
Oh, absolument.
Donc, on s'attarde de pas trop sur les thèmes, chacun d'eux étant abordés de manière succincte, mais j'ai l'idée qu'effectivement le cadre posé, une fois que les lecteurs seront habitués à cette faune animalière et à reconnaître les grands items, qu'ils soient politiques, syndicaux, locaux ou autres, et bien qu'on puisse aller plus à fond dans les suivants. Et c'est ce que je fais dans le deuxième déjà, sur la notion de la politique sécuritaire, où effectivement je creuse davantage le thème que la question migratoire sur le premier, qui est en toile de fond, mais qui n'est pas développé de manière journalistique, on va dire.
D'accord. Et alors, justement, tu nous as bien précisé que ce seraient des épisodes et que le numéro 2 est déjà à l'ouvrage.
Oui.
Si on se projette encore plus loin, est-ce que tu t'es déjà fait une liste de thèmes que tu aimerais aborder? Genre, numéro 2, ce sera ça, numéro 3, numéro 4, etc., etc. Ou bien, c'est chemin faisant que tu vas...
J'ai pas cette capacité. J'essaie déjà de finir le deuxième.
Oui. Que tu te sois mis à l'ouvrage. Que tu te dises, tiens, j'aborderai bien également plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être une trame que tu as déjà organisée, tu vois.
Alors, pour être... Ce qui est plaisant dans cette notion de série, c'est que justement, on switch un peu dans différents types de narration et différents types d'univers, et que sur l'un ou l'autre des opus, on peut s'amuser à creuser plus. Typiquement, la veine intime et familiale de Renard, qui est en toile de fond aussi, pourrait donner un lieu à un opus plus intimiste, où on soit plus dans sa sphère privée que dans les autres. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment de la série. Pour l'instant, on est un peu dans la grande veine politico-syndicale, mais il y aura certainement des moments plus intimes dans la série.
D'accord. Et est-ce qu'effectivement, alors, toi-même, lorsque tu présentes ce livre, qu'en dis-tu? Est-ce que c'est un livre politique? Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est de la littérature engagée? Comment est-ce que tu amènes ça?
Alors, le mot simple pour essayer de donner, parce qu'on a toujours mettre dans des cases, donc on parle de polar animalier, mais
oui.
À vrai dire, c'est réducteur.
Ah, absolument. Voilà.
Il faut donner un nom pour que les gens puissent se dire, ah ben tiens, c'est dans telle case qu'on le met. J'ose espérer que ce soit suffisamment original pour que ça ait du mal à trouver une place, non pas parce que les gens ne veulent pas l'acheter, mais parce qu'une fois qu'ils devront le mettre dans une catégorie de leur bibliothèque, ils ne sauront pas dans quelle catégorie le mettre, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'ils aient lu le livre, qu'ils l'aient aimé, qu'ils le gardent.
Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est important, je trouve, je sais pas ce que toi tu en dis, mais de le revendiquer également, d'en revendiquer les contenus, et ces contenus sont...
Oui, mais si tu prends le précédent qui était Nazarov, donc était voilà, on a parlé de polar fantastique. Du coup, il est même en référence au niveau de la littérature fantastique suisse, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, on l'a mis dans la liste de ses ouvrages. Alors qu'à vrai dire, c'est quelque chose de très, très différent de ce qu'est la littérature fantastique. Tu parlais tout à l'heure de Orwell. Est-ce qu'on doit parler de science-fiction quand on parle de 1984 ou d'anticipation? On est avec un livre qui est hors des cadres de série. D'ailleurs, tu ne vas pas le trouver dans les rayons de librairie avec la littérature ni d'anticipation ni de science-fiction. Il va être sous littérature tout simplement, littérature traduite, et ce qui me va très bien d'ailleurs. Et finalement, les ouvrages un peu particuliers, ben, on essaye de mettre un libellé dessus, mais l'ouvrage prévaut le libellé et c'est mieux comme ça.
Absolument, tout à fait, c'est mieux comme ça. Y a-t-il des questions qui surgiraient parmi nous? Eh bien, vous seriez invités à les poser. Non, je dis tout le temps ça, c'est normal. Hein. Et si, pour le moment, non, en tout cas, voilà. Alors, y a-t-il, hormis évidemment les sujets politiques qui sont nombreux ici à Genève, en tout cas, y a-t-il d'autres sujets comme ça auxquels tu auras envie de tordre le cou, certains stéréotypes, certaines images d'Épinal qui collent un petit peu à Genève, auxquelles tu penserais?
Alors, Genève, je ne sais pas, là, on parlait de l'aspect intime tout à l'heure, et typiquement, une chose qui est explorée au travers de ce personnage et de ces animaux, c'est les relations humaines, les relations de couple, les relations de paternité. Renard est une espèce de vieux père avec des enfants dont il a eu un contact qui a été coupé, il essaie de reprendre ce contact, il est complètement largué, et toutes ces notions de famille recomposée et de multiples personnages autour des mêmes enfants, ben c'est une notion qui n'existe évidemment pas dans le roman initial, encore que Hermeline, hein, l'épouse très sage qui attendait Renard au terrier avec ses enfants, s'en occupant tel que c'était l'icône à l'époque, sur la fin du roman de Renard, elle a quand même justement une aventure avec Poincet, qui est aussi un blaireau d'ailleurs, et elle commence à s'émanciper de Renard. Et à vrai dire, bah, toute cette structure familiale, le nucléus versus Moyen-Âge, a complètement explosé. Et quand on en parle aujourd'hui, au travers de ces animaux-là, c'est aussi une manière de se confronter à la société, à notre temps. Ce n'est pas de parler seulement des grands élans politiques, mais aussi de parler de l'intime, de la manière dont les gens vivent leurs relations, vivent leur couple et leur non-couple et leur multi-couple. Et tout ce qui va avec des enfants aussi qui sont très questionnants et remuants, qui sont d'ailleurs plus des enfants parce que c'est des adultes et tu as encore la génération d'après qui arrive. Donc tout ça, c'est des questionnements sociétaux qui ne sont pas, à vrai dire, politiques, mais qui traversent aussi le livre au travers des animaux et de leurs relations.
Et ceux-ci sont pléthores, ce qui pourrait nous conduire à des épisodes sans fin du livre. Alors, c'est donc un projet au long cours, on peut dire.
Oui.
Voilà. Alors, que va-t-il se passer plus tard? Admettons que nous sommes déjà là au 5e ou au 6e épisode. Est-ce que quitterais-tu ton travail au syndicaliste pour pouvoir te consacrer à ça, ou justement pas? Tu le garderais, tu verserais même des dividendes, parce que c'est ça qui nourrit.
Alors, c'est exactement le débat que j'ai avec ma chère et tendre qui régulièrement me dit, de toute façon, il ne faut pas que tu quittes la vie active parce que c'est elle qui nourrit ce que tu as dans l'écriture. Donc, très clairement, j'aurais besoin de toute manière de rester connecté parce qu'encore une fois, le fait de s'enfermer, de se mettre dans l'écriture et de ne plus être connecté à la vie active peut, en tout cas, c'est ce qui s'est produit chez moi lorsque ça m'est arrivé, peut faire qu'on n'a plus la matière qui nous permet justement d'aller de l'avant. Du coup, on tourne à vide et on finit par avoir ces principes de page blanche et autres que je ne connais pas justement lorsque je suis actif, puisque du coup, j'ai envie de déverser les choses, donc ça vient beaucoup plus naturellement. Donc je crois que je vais de toute manière rester connecté d'une manière ou une autre à la vie active, mais comme mon grand âge avance, d'ailleurs j'ai un peu plus que les 50 ans que tu annonçais tout à l'heure, parce que j'ai bientôt 51, mais mon grand âge fait qu'à un moment donné, je vais aussi devoir me poser la question de la retraite, d'autant plus qu'à Unia, on la prend de manière anticipée, si je suis toujours là. Et donc du coup, je crois qu'il faut que je reste aussi connecté à toute la vie active, même d'une manière militante, si ça ne doit pas être d'une manière professionnelle.
D'accord. Parce que sinon, quelles sont-elles tes sources d'inspiration au-delà du travail de syndicaliste? Et deuxième volet de la question, comme j'y vais direct, hein, dois-tu beaucoup filtrer? Enfin, est-ce que tu as beaucoup, beaucoup d'entrées, d'inspiration que tu dois un petit peu filtrer, ou tu es à l'affût tout le temps un peu justement de...
Alors, je te le disais, il y a vraiment un mélange dans ce livre et dans cette série en tout ce qui est le volet intime et tout ce qui est le volet histoire avec un grand H. Donc les choses, tu switches de l'un à l'autre en permanence et à vrai dire, d'une manière camouflée, il y a évidemment plein de clins d'œil à des choses plus ou moins personnelles ou qui peuvent être pas des choses que j'ai vécues, mais des choses que de gens que je connais qui ont vécu ou qui sont proches. Voilà, des choses qui me questionnent, des choses qui m'interrogent. Donc oui, les sources d'inspiration sont multiples et nombreuses. Je prends dans tout le matériau que j'ai autour de moi et je vais, comme je crois à peu près tous les artistes, voler mes contemporains, voler mes intimes de leur vie et la mettre dans mes livres. D'ailleurs, ça m'a valu des fois quelques susceptibilités de personnes qui se trouvaient du coup pas très bien traitées dans ce que j'avais pu relire. Bon, c'est pas le cas dans celui-là, en tout cas pour l'instant ça m'est pas revenu. Mais voilà, ça c'est un volet et pour le reste, non, j'ai pas de difficulté du coup à alimenter et puis je m'amuse. À vrai dire, c'est très amusant le côté animalier. Je vous donne un exemple tout cru qui est le moment ce qui est en train de m'amuser en ce moment dans ce que j'écris juste là. Je vous ai dit que les policiers étaient les perdreaux. Dans le second opus, vous avez toute une vague de coqs. Donc vous savez que dans le roman de Renard, il y a Chanteclair, il y a Chanteclin, enfin il y a voilà, tout un certain nombre de coqs qui se retrouvent évidemment en proie avec Renard. L'un d'entre eux a pris aussi le volet policier et il a comme second un canard. Et ce canard s'appelle Magret. Et donc, du coup, je m'amuse beaucoup avec ce canard Magret qui est en train de faire ses enquêtes. Et voilà, ça fait partie des petites choses sur lesquelles je m'amuse beaucoup.
Bah oui, j'imagine. Effectivement, succulent, pourrait-on dire. Lorsque l'on est un auteur, est-ce qu'on est également un grand lecteur? Et si oui, quelles sont là aussi tes pistes d'inspiration, pourquoi pas, ou de comparaison, ou tout simplement de plaisir?
Alors, je ne suis pas un grand lecteur et je lis d'autant moins quand j'écris. À vrai dire, je lis surtout quand je n'écris pas. Et comme j'essaie d'écrire tout le temps,
du coup, tu lis plus. Le
problème, c'est que quand je suis en train d'écrire, je ne veux pas me faire parasiter par quelque chose d'autre. Donc, je peux aller consulter. Oui, je consulte, mais je ne vais pas lire des ouvrages de manière approfondie quand je suis en train d'écrire. Alors, je lis un peu entre les épisodes d'écriture. Et puis, dans les grands plaisirs que j'ai eus, j'ai découvert une petite maison d'édition française qui publie des textes étonnants, tous illustrés, des textes très originaux, avec beaucoup d'auteurs femmes, d'ailleurs, que je ne connaissais pas du tout. C'est les éditions du Chemin de Fer. Je ne sais pas si vous avez découvert cet éditeur. Il fait un travail éditorial remarquable, donc je le recommande chaleureusement. Il m'a fait découvrir... Il y a des auteurs reconnus, mais il y a beaucoup de plumes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais dans les auteurs reconnus, une claque que je me suis pris récemment dans la tête, c'est Violette Leduc, que je ne connaissais pas. Et là, je dois dire que ça a été une grande découverte pour moi, une plume absolument extraordinaire. Sinon, je suis un fan, ça, vous l'aurez compris, de littérature médiévale, donc j'adore ça. Donc évidemment, le roman de Renard au premier chef, mais j'adore tout le roman en prose du Graal, du Lancelot Graal.
Oh là là, Chrétien de Troyes, l'Hélène de Marie de France, voilà, tout ça.
Oh là là. Donc bien j'adore toute ça. Cette littérature-là, et j'adore aussi toutes les, si on reste dans cette époque-là, les sagas islandaises, j'adore ça également. Voilà, si on prend des choses plus récentes, t'as parlé d'Orwell, j'adore Bulgakov, j'adore Calvino, j'adore Kafka, bêtement, c'est un des grands incontournables pour moi. Voilà, parmi tant d'autres.
Ouais, effectivement. Tu parlais des éditions, alors justement, on va peut-être également citer les éditions Encre Fraîche, auxquelles tu disais que ton précédent roman avait été publié.
Oui, tout à fait, les éditions de l'Encre Fraîche font un travail éditorial aussi tout à fait étonnant avec des auteurs locaux. Ils viennent de publier un livre que je vois que tu as sur la table. En lien avec les squats d'une auteure genevoise qui a fait un très bel ouvrage. Alors, je vais dire le titre en même temps parce que tu me le mets sous les yeux. C'est K Squat Ballade de Marielle Budry qui vient d'être publiée aux éditions de l'Encre Fraîche. D'ailleurs, elle en a donné une lecture pas plus tard qu'il y a une semaine au Jardin Botanique où il y avait une balade littéraire organisée par l'Encre Fraîche à laquelle j'ai eu l'honneur de participer aussi. Et K Squat Ballade était un des ouvrages qui était lu à cette occasion. Un très bel ouvrage qui est actuellement aux éditions de l'Encre Fraîche. Une petite maison, encore une fois, qui fait connaître des plumes pas toujours publiées ailleurs, mais qui valent la peine qui valent d'être lues.
Exactement. Et alors, ton aventure avec Cousu-Mouche, selon toi, ça a déjà bien commencé. Et puis, ça pourrait être là aussi une aventure au long cours.
J'espère. Disons, ça, c'est un peu entre leurs mains. Hein. C'est eux qui décident de publier ou pas. Mais ils ont publié le premier. Ouais. J'adore cette maison. Je trouve qu'encore une fois, ça se passe très, très bien, cette promotion du premier livre où ils font beaucoup, beaucoup. C'est grâce à eux qu'il y a eu un certain nombre de lectures dans les Paillots et ailleurs. Il y en a un autre qui est en train de se préparer avec le Paillot de Fribourg, concours, c'est eux qui sont en train de l'organiser. Ils organisent aussi quelque chose, ben justement, au Bain des Paquis qui devrait avoir lieu cet automne. Ils organisent plein de choses et leurs autres auteurs aussi. Je suis très content d'être à côté parce que c'est des très beaux textes qui sont publiés chez eux. Là, il y a le texte de Lolle Wettilmans qui vient de paraître chez Cousu Mouche, qui est aussi un très très beau texte. Alors, beaucoup dans un univers beaucoup plus intime, mais un amour parfait, ça s'appelle. Mais c'est très très joli. Et voilà, donc je suis très content d'être dans cette maison. J'espère juste qu'ils vont me supporter et qu'ils ne vont pas me mettre à la porte pour le deuxième.
En tout cas, on les salue bien. Michael Perruchou en tête. On arrive doucement au terme de cet entretien. Yves Munier, je te remercie d'ores et déjà d'avoir pris tout ce temps avec nous. J'aurais voulu savoir si, avant que je te pose encore une petite question très triviale sur le livre à proprement parler, mais est-ce que tu souhaiterais nous en lire un deuxième extrait, éventuellement? Ah super, et puis moi ça me permet de rappeler qu'effectivement le livre est sorti, qu'il est disponible dans toutes les librairies et en particulier Fahrenheit 451 qui se situe au 24 rue Voltaire et que c'est aux éditions Cousu Mouche. Yves Munier.
Alors je mentionnais tout à l'heure un épisode où Renard avait fait le mort devant une charrette de poisson et où là il essayait de refaire pareil devant une voiture et qu'il s'est fait renverser. L'extrait que je vais vous lire maintenant se passe juste après cet accident, donc il est dans la voiture qu'il a renversée et qui est conduite par ce qu'il pense être une biche et qui est un personnage qui s'appelle Alice qu'il a vu juste avant chez Brichemer. Brichemer étant le cerf du roman de Renard, un personnage important de la cour qui reste important dans ce nouvel opus. Donc le chapitre s'appelle La boîte. Peut-être juste pour comprendre ce qui est en train de se passer, Renard voulait rejoindre l'hôpital de la tour où l'attend une charmante Zibeline. Il devait la rejoindre dans cet hôpital et vous allez comprendre du coup pourquoi ce qu'il en parle dans le dialogue qui va suivre. Alice pleure au volant, souffle en spasme et reniflement. Pour la musique, c'est Joe Coltrane, Afro Blues. Et tout d'un coup, l'évidence, ce racé d'Alice, ce maquillage raffiné, ce n'est pas une biche, c'est une gazelle. Où sont vos cornes? Mais taisez-vous, vous perdez du sang. Renard porte sa patte gluante vers la truffe. On dirait plutôt du poisson. Oui, c'est pour ma mère, c'est les restes du repas. Désolé, j'ai pas eu le temps de ranger la banquette. Mais où m'emmenez-vous? À l'hôpital? Ok, mais à la tour. Non, non, trop tard, on arrive au cantonal. Non, amenez-moi à la tour. Vous vous videz, là, on n'a pas le temps. Je m'en fous. De toute façon, on arrive, je les ai prévenus. Des blouses blanches surfent en brancard vers la voiture. Faites attention, il a perdu beaucoup de sang. Ne bougez pas, monsieur, laissez-vous faire. Je veux aller à la tour. Mais on doit d'abord stopper l'hémorragie, ne vous inquiétez pas, on va bien vous soigner. Mais c'est pas la question, je dois aller à la tour. Plus maintenant, monsieur, plus maintenant, restez tranquille. C'est moi qui l'ai renversé. Enfin non, il était couché sur la route. Il a dû faire un malaise. Asseyez-vous, mademoiselle, la police va venir vous parler. Mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Mais lâchez-moi, puisque je vous dis que je dois aller à la tour. Mais détendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue? C'est juste pour vous détendre, vous verrez, ça va vous faire du bien. Mais arrêtez ça, je veux pas de piqûre, je veux aller à la tour. Tenez-le. Mon Dieu, mais pourquoi? Calmez-vous, mademoiselle, la police va bientôt arriver. Vous voulez boire quelque chose? Elle secoue la tête. Ses larmes étincellent sous les néons et son maquillage qui ne coule pas comme une scarification. Maintenant qu'ils ont passé leurs blessés aux infirmières, les brancardiers ne la lâchent plus, elle, fascinée par son allure. Et tandis que les portes lui retombent au cul du lit, Renard a tout juste assez de conscience pour se demander encore « Mais où sont passés ces corps ?»
Merci beaucoup Yves Munier. Ah ouais, les hôpitaux, on pourrait saluer les infirmières, celles de l'EHPAD également, qui sont dans des conditions de travail terribles auxquelles on pense beaucoup et du point de vue syndical avec lesquelles vous êtes évidemment, j'imagine, en train de travailler beaucoup. D'ailleurs, la rentrée syndicale, on en parlera à un autre moment, clairement, mais voilà, ça va. Voilà, on peut annoncer que déjà la rentrée sera certainement chaude, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Yves Munier d'être venu jusqu'à nous pour ce récit d'un polar animalier, comme on l'a dit, mais voilà un livre qui se lit sur plusieurs plans, La Faute au loup, édition Cousu Mouche. C'est un livre auquel on souhaite beaucoup de succès et que l'on va se mettre immédiatement à lire. Et puis, on en attend les prochains épisodes.
Merci beaucoup.
À une prochaine et bon dimanche à toi.
À vous aussi.
Voilà, alors on fait une petite pause musicale et puis on revient pour la suite des opérations.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así.
Se mueve.